BW. Magazine Santé.
Peu connue en Europe, où l'on est habitué à la brosse à dents en plastique, la brosse végétale remporte un grand succès au Sénégal, où elle joue un rôle important dans le maintien de la santé bucco-dentaire. On en parle cette semaine dans votre magazine Santé. En seconde partie, il sera question de la recherche africaine et des perspectives pour que les scientifiques du continent se fassent entendre des politiques, des investisseurs et des populations. C'est Constance Fischer au micro, bienvenue à l'écoute de ce magazine. Au Sénégal, les brosses à dents végétales résistent à l'invasion des brosses à dents en plastique dites conventionnelles. Les bâtonnets frotte-dents sont utilisés par la majorité de la population, y compris les jeunes. Robert Adé, notre correspondant à Dakar, s'est intéressé aux effets de ces brosses particulières obtenues à partir de tiges ou de racines issues de plantes médicinales, de ces effets donc sur la santé bucco-dentaire. Voici son reportage.
Impossible de circuler dans les rues de Dakar sans croiser un Sénégalais avec un bâtonnet frotte-dents dans la bouche. À chacun, sa brosse végétale, peu importe le lieu ou le moment.
Ça rend clair les dents, en plus de ça, ça rend plus fort les dents. Moi, j'utilise l'équidant que j'emmène en casement, spécialement à Colda.
Avec ça, c'est bon pour les dents, pour santé, pour tout ça. C'est pas cher.
C'est quelque chose que moi j'aime pour laver les dents. Avant de me plier, il faut que je fasse ça. Avant de me coucher aussi.
Du point de vue de la religion, c'est un outil qui est conseillé par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nettoyer les dents. Ici, les gens ont l'habitude de l'utiliser couramment.
Au-delà des considérations mystiques, les bâtonnets frotte-dents jouent différents rôles dans le maintien de la santé bucco-dentaire, affirme Kaoussou Sambou, phytothérapeute et président de la Fédération des tradis praticiens de santé du Sénégal. Cet octogénaire, originaire de la Casamance, est né d'un père guérisseur. Il soigne ses patients par les plantes depuis plusieurs années et connaît bien la vertu des brosses végétales.
C'est des frottes-dents qui font blanchir les dents. Ces plantes-là sont très riches en antibiotiques. Les plantes les plus vendues, c'est les frottes-dents qui sont des branches des acacias. C'est un désinfectant buccal, n'est-ce pas? Les écorces même sont utilisées des fois pour traiter les dents, n'est-ce pas? Mais il y a aussi d'autres racines. Il n'y a pas de bâtonnets toxiques qui peuvent nuire à la santé. C'est vérifié, puis c'est connu. Par exemple, les frottes-dents de la racine du colatier, ça solidifie. Quand quelqu'un se frotte les dents avec ça depuis son jeune âge, en général, il meurt avec toutes ses dents. Et ça évite la carie de s'installer. Il y a des broches à dents qui détruisent complètement l'émail par rapport aux frottes-dents. Les frottes-dents, si ça ne peut pas te faire du bien, ça ne te fera pas perdre tes dents. Non, pas du tout.
Lamine a 35 ans. Il est ambulancier dans une clinique privée aux Almaty. En dehors du brossage usuel du matin, il utilise les bâtonnets frotte-dents tout le reste de la journée et jure avoir définitivement abandonné l'utilisation des brosses à dents conventionnelles.
Il y a des brosses qui ne sont pas bonnes. Beaucoup de brosses ne sont pas bonnes. Le médecin m'a dit qu'il faut arrêter les brosses à chaque fois. Quoi. Si tu fais les brosses le matin ou le soir, mais à chaque fois, non.
Pour lever le doute sur la brosse à dents la plus adaptée à l'hygiène bucco-dentaire, nous avons rencontré au service médical du personnel administratif de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar un chirurgien dentiste. Docteur Ibrahima Diop a dit ce qu'il faut pour un nettoyage efficace et sans risque de la bouche et des dents.
Alors, le problème principal par rapport à l'utilisation de ce bâtonnet frotte-dents là, c'est que les gens ont l'habitude de le suppléer à la brosse à dents. Et c'est ce qui pose problème. Parce que normalement, il doit être utilisé en complément de la brosse à dents. Il m'arrive pour une consultation de recevoir des patients qui me disent qu'ils n'utilisent que le bâtonnet frotte-dents pour nettoyer leurs dents. Alors, le problème avec ça, c'est qu'on aura juste un nettoyage des aliments qui sont au niveau des dents, pas au niveau de la gencive. et ces aliments qui vont stagner, qui vont rester, parce que le bâtonnet frottant ne peut pas entrer au niveau de ces zones-là, la zone intérieure au niveau de la gencive. Le problème, c'est que ça va avoir une maladie parodontale qui va se terminer par une dénudation radiculaire. C'est ce qui fait que d'habitude, les gens ont des problèmes de sensibilité quand ils prennent du chaud, du froid. Mais normalement, l'utilisation du bâtonnet frotte-dents ne pose aucun problème. Il faut juste ne pas l'utiliser comme chez nous aussi à longueur de journée, parce que dans ce cas-là, le fait de frotter tout le temps au niveau de la surface dentaire avec le bâtonnet frotte-dents, d'habitude, c'est des végétaux. C'est assez dur. Donc, le fait de passer toute la journée à frotter sur la dent, ça peut entraîner une érosion au niveau de l'émail de la dent. Et ça va donner comme problème une fragilisation de cet émail-là. Et la fragilisation de l'émail aussi peut entraîner des sensibilités au chaud, au froid. Parce que c'est la couche de l'émail qui est diminuée au niveau de la dent.
Selon le président de la Fédération des tradis praticiens de santé, le Sénégal compte une dizaine de variétés de bâtonnets frotte-dents spécifiques à la végétation de chacune de ces 14 régions. Ces brosses végétales sont disponibles dans les marchés et chez des vendeurs ambulants et coûtent entre 25 francs et 500 francs CFA. Robert Ali, à Dakar, pour la Deutsche Welle.
Les problèmes sont nombreux, mais les ressources le sont tout autant. C'est le credo de l'optimiste professeur Yap Boum, représentant d'Épicentre pour l'Afrique. Épicentre, c'est la branche de recherche et d'épidémiologie de l'ONG Médecins sans frontières. De plus en plus de chercheurs sont formés sur le continent et le professeur Yap Boum est persuadé que la recherche par et pour les Africains peut décoller. Mais le nerf de la guerre, comme souvent, s'appelle l'argent. Écoutez.
Les opportunités sont présentes. Maintenant, il faut du financement pour pouvoir renforcer les capacités, pour pouvoir avoir des laboratoires, pour pouvoir donner les moyens financiers et logistiques aux chercheurs de pouvoir répondre aux questions auxquelles notre société est confrontée.
Est-ce que vous pensez que cet argent, il est aussi déjà sur le continent et il suffirait de puiser, disons, dans les bons portefeuilles et dans les bonnes caisses ?
Alors déjà, je reviens au niveau des gouvernements qui ont signé pour la plupart la convention d'Abuja qui dit que 1% du PIB des pays doit être investi dans la recherche. Donc il y a déjà quand même un engagement politique. Maintenant, faudrait-il qu'on aille au bout et qu'on puisse aller chercher cet argent qui devrait être disponible. Deuxièmement, on a plus que jamais un nombre de milliardaires africains qui sont pour beaucoup des philanthropes. Maintenant, il serait important que des gens comme Dangote, Motsepe, Dantoulo ou autres puissent également trouver une raison d'investir dans cette recherche pour répondre à nos problèmes. Sinon, on ne pourra pas gouverner notre recherche et répondre à nos problèmes. Donc, à mon avis, il y a véritablement une opportunité d'aller vers ces personnes. D'un côté, on les aide à être de bons philanthropes et de l'autre côté, on permet aux chercheurs de faire une bonne recherche qui, in fine, permet d'avoir un impact social au niveau du continent.
Mais c'est quand même, ou ça reste quand même, le devoir des gouvernements d'investir aussi de l'argent public. Par exemple, un pays comme le Cameroun, combien de pourcentages du PIB sont alloués à la recherche ?
Alors, il serait difficile pour moi de dire exactement quelle proportion est aujourd'hui, au moment où on parle, est dédiée à la recherche. Mais il est clair quand même, en écoutant, en discutant avec les chercheurs, qu'il n'y a pas de moyens pour eux pour pouvoir travailler. Donc, effectivement, c'est une responsabilité du gouvernement. Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'y sommes pas encore. Mais on n'y est pas pourquoi ? Est-ce qu'on arrive suffisamment à montrer, à démontrer aux politiques l'importance de cette recherche ? Si on arrive à montrer que la recherche permet de réduire le nombre de personnes qui seront malades et finir de réduire les coûts liés à la santé, par exemple, ça pourrait faire un shift au niveau des politiques et à ce moment-là, ça permettrait d'avoir un investissement même pour ceux qui ne sont pas des aficionados de la recherche.
Est-ce que, outre cette question des financements, vous voyez d'autres défis pour la recherche africaine ?
Oui, il y a autre chose, et c'est une autre opportunité, c'est la diaspora africaine. des chercheurs africains, il y en a partout. À mon avis, l'opportunité aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on connecte tous ces chercheurs un peu partout pour qu'ils puissent être investis dans la recherche qui se fait sur le continent. La diaspora a un rôle clé. Maintenant, effectivement, il faut qu'on puisse organiser, et ça encore, c'est le rôle du gouvernement, d'organiser les canaux pour leur permettre de pouvoir s'impliquer dans ce genre d'activité.
Donc vous ne voyez pas ce qu'on appelle communément la fuite des cerveaux comme un problème, mais plutôt comme une chance?
C'est une opportunité. Vous imaginez que tous ceux qui sont partis ont, qu'on le veuille ou non, un attachement à leur pays. Ils veulent aider pour la plupart. Donc qu'on leur donne des moyens de le faire. Et là, c'est une opportunité phénoménale. C'est sûr et certain que de permettre à ces chercheurs africains qui sont à l'étranger de venir mettre en place des recherches dans leur continent, ce serait un atout majeur pour nous, mais également pour leurs universités, pour leurs institutions de recherche, parce que ça faciliterait beaucoup de choses. Les différences culturelles sont des fois des barrières pour la conduite de la recherche.
Vous avez déjà évoqué le rôle des milliardaires, le rôle de la politique, le rôle des chercheurs eux-mêmes, évidemment. Quel est celui de la société civile et du citoyen?
Moi, je pense que le citoyen s'intéresse à ce qui améliore sa qualité de vie. Donc à partir du moment où nous, les chercheurs, on arrive à traduire nos résultats dans un langage qu'il comprend, il est très intéressé. Deuxièmement, ça permet aussi à notre société de pouvoir challenger également les politiques. Donc je pense qu'à ce niveau, la communauté, si elle a la bonne information, est un acteur majeur parce que après tout, c'est bien le bénéficiaire de la recherche qu'on fait.
Merci au professeur Yaboum qui s'engage également, sachez-le, pour que les publications scientifiques s'ouvrent à d'autres langues que l'anglais. Des publications qui sont cruciales, non seulement pour ceux qui veulent appliquer les résultats des recherches, mais aussi pour assurer aux chercheurs la reconnaissance de ses pairs. Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver cette édition et toutes les autres à réécouter, télécharger et partager. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous comme un charme et restez à l'écoute de la DW.